Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Le retour des émissions spéciales avec l'épidémie de Covid-19 qui est toujours d'actualité. Et surtout le retour du confinement, un contexte que vous avez déjà connu en début d'année avec de nombreuses conséquences. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent et justement, on fera le point dans quelques minutes. Nous restons, quoi qu'il arrive, vous le savez, mobilisés en cette période compliquée. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions à l'antenne ou à réagir via la page Facebook de l'association. Il y a aussi la partie commentaires de la radio et même notre répondeur. Des situations uniques, compliquées, avec des personnes parfois fragiles, il faut garder le lien et c'est le but de notre émission. Pour répondre à vos questions ou vous apporter un conseil, nous retrouvons avec plaisir la psychologue de l'association France Alzheimer, Judith Mollard-Palacios. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Alors avant de réagir à certains témoignages et questions, Judith, un mot peut-être pour commencer sur le retour en force de l'épidémie et puis le retour du confinement qui forcément touche le moral de tout le monde.
Oui, évidemment, on avait pu espérer au mois de mai, au moment du déconfinement, des jours meilleurs et des perspectives qui pourraient nous permettre de reprendre complètement nos activités. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, la décision qui était plus ou moins attendue de ce reconfinement nous replonge dans une situation que l'on a déjà connue, même si, me semble-t-il, on peut penser qu'on y est un petit peu mieux préparé. On a pu tirer, d'abord éprouver les choses une première fois, trouver parfois des adaptations à la contrainte, aux limites, et peut-être que psychologiquement, c'est un petit peu plus facile avec des points de repère. Et puis aussi des mesures malgré tout plus aussi rigides qu'elles l'étaient au premier confinement. Cependant, ça évidemment provoque encore une forme de stupéfaction et d'inquiétude, d'anxiété pour les semaines à venir, sans savoir exactement à quel moment on pourra véritablement reprendre une vie normale, nos activités et surtout permettre aux personnes malades et à leurs aidants familiaux, de nouveau, de bénéficier de tous les dispositifs mis à leur disposition.
Alors justement, c'est aussi le retour de toutes ces interrogations liées au confinement. Avec cette première question d'une de nos auditrices, comment faut-il justifier un déplacement de longue distance, voire d'une autre région, d'un enfant pour aider ses parents de plus de 77 ans dont l'un d'eux est atteint de la maladie d'Alzheimer?
Alors, il semblerait qu'avec l'attestation de déplacement dérogatoire que nous connaissons bien maintenant, il y a toujours cette possibilité, une case à cocher qui nous permet d'aller au chevet finalement d'une personne vulnérable, d'un membre de sa famille en situation de fragilité, et sans qu'il y ait besoin de justifier cette vulnérabilité, quelle que soit la distance à devoir faire pour rejoindre cette personne vulnérable. Donc c'est possible sans justificatif, mais bien évidemment avec l'attestation de déplacement dérogatoire.
Alors, on en parlait tout à l'heure, Judith, il y a quand même des différences entre ce confinement et celui qu'on a connu en début d'année, avec notamment le maintien des visites en EHPAD sous certaines conditions.
Voilà, donc il y a plusieurs choses qui en effet sont un peu différentes et on peut espérer qu'on ait tiré les leçons du confinement précédent qui a été tout à fait dévastateur pour les personnes hébergées dans les EHPAD et pour les aidants familiaux qui les accompagnaient. Donc en effet, cette fois-ci, les visites sont maintenues dans les EHPAD. Alors évidemment avec des conditions, alors en fonction du fait ou pas qu'il y ait des cas de Covid à l'intérieur de l'EHPAD, quand il y a des cas de Covid à l'intérieur de l'EHPAD, l'établissement peut être, est temporairement confiné, pas forcément l'EHPAD tout entier, mais ça peut l'être. Sauf que au bout de 15 jours, hein, une décision doit être prise en concertation avec le Conseil de la vie sociale pour poursuivre ce confinement ou pas. Mais s'il n'y a pas de cas Covid dans l'EHPAD, les visites doivent se poursuivre avec bien entendu les mesures barrières évidemment préconisées. Ce qui était préconisé aussi, c'est de poursuivre les activités collectives à l'intérieur des EHPAD et éviter le plus possible, hein, l'isolement à l'intérieur des chambres, qui change aussi, et François Alzheimer a beaucoup œuvré pour ça, c'est que les visites des professionnels et des bénévoles formés sont maintenues, hein, dans les EHPAD pour éviter au maximum les ruptures d'accompagnement. En tout cas, il y a vraiment une volonté d'être dans une continuité de l'accompagnement, de pouvoir protéger sans isoler et de maintenir un équilibre, hein, entre sécurité sanitaire et maintien des liens familiaux. Et d'ailleurs, hein, la Haute Autorité de Santé est en train de rédiger une petite note, hein, en direction des familles, d'une part pour les encourager à maintenir, hein, leur présence et leur visite au sein des établissements, en prenant rendez-vous, en évidemment, hein, respectant les mesures barrières. Mais vraiment, il y a quelque chose, hein, là d'une incitation auprès des familles et aussi auprès des établissements pour favoriser dont on sait, hein, que cet accompagnement affectif et humain est tout aussi important, sinon plus, que les soins dispensés, que ce soit les soins d'hygiène ou les soins médicaux.
Alors, on a reçu plusieurs témoignages, dont celui d'une auditrice avec le Covid-19 qui revient. Elle dit: mon père a été hospitalisé lors du reconfinement, ligoté sur son lit la nuit, sur une chaise le jour. Impossible de lui rendre visite. Le degré de fragilité des patients Alzheimer n'est pas visible à l'œil nu. Il peut répondre à certaines questions, mais il souffre d'un handicap mental qui l'empêche de s'adapter rapidement à un nouveau milieu. Tout lui paraît définitif. Il n'a pas d'autres références que ce qu'il voit. Il est dans un équilibre instable, mis à mal par l'afflux de nouvelles informations. Un patient Alzheimer n'a pas la capacité de se défendre ni de se justifier. Si l'on le met dans une situation qui le fait souffrir, il est vulnérable, son cerveau est fragile et il ne peut pas gérer le stress. C'est une personne sensible à la manière dont les autres le considèrent et à la qualité d'être humain qu'on lui attribue en tout ou en partie. La plupart des gens voient un patient Alzheimer incapable de se servir d'une sonnette pour appeler l'infirmière et donc ils en déduisent qu'il ne comprend rien à rien, qu'il ne sent rien, qu'on peut donc le traiter comme un objet et qu'il ne fera pas la différence et que de toute façon, il ne se rappellera de rien. Très fort témoignage, ça vous inspire quoi, Judith?
C'est encore une fois, hein, une situation qu'on ne peut que regretter, même si voilà, les soignants sont parfois, hein, dans des injonctions paradoxales, hein, de pouvoir sécuriser, protéger la personne et en même temps, hein, de pouvoir lui offrir un environnement le plus sécurisant possible. Et comme le dit très bien cette auditrice, c'est vrai qu'une personne atteinte, hein, de troubles cognitifs, notamment de troubles cognitifs évolués, va être bien plus dans un registre de la perception que dans un registre de la pensée, hein. C'est-à-dire que nous, on peut supporter une situation nouvelle, une situation de contrainte, parce qu'on va avoir des informations qui nous permettent de raisonner et de justifier cette situation et peut-être de s'y adapter. C'est vrai que pour la personne atteinte, hein, de troubles cognitifs, ces informations, malheureusement, peuvent être éventuellement comprises à un temps T, mais rapidement oubliées puisqu'elles ne seront pas enregistrées dans sa mémoire. Et donc, elle va être bien plus vulnérable, hein, à son entourage, aux personnes qui sont autour d'elle, et extrêmement sensible à la manière dont on va pouvoir s'adresser à elle, leur témoigner, hein, de l'affection, leur témoigner de la réassurance. Et c'est la raison pour laquelle, hein, on sait à quel point la formation des professionnels du soin, des professionnels de l'accompagnement, est essentiel pour mesurer à quel point, et peut-être on peut faire le parallèle avec la relation que l'on instaure avec un bébé, un tout jeune enfant, où on sait que les mots, certes, sont importants et véhiculent de l'information, mais surtout, les mots véhiculent des émotions, véhiculent des affects. Et c'est avec ces émotions et ces affects qu'on va pouvoir transmettre et agir finalement positivement vis-à-vis de la personne et lui assurer un maximum de sérénité dans des situations comme celle décrite d'hospitalisation et de contrainte sur un lit, par exemple.
Et puis, l'importance aussi de savoir communiquer avec la personne malade. La communication doit s'adapter.
Exactement. On ne peut pas, comme le dit l'auditrice, considérer qu'à partir du moment où la personne ne peut plus exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle comprend, ne pas considérer qu'elle n'est plus rien et qu'elle n'a plus un statut de sujet. Il n'y a rien de pire que de devenir l'objet de soins de professionnels, comme si on n'avait plus, comme si on n'avait plus d'identité, plus de contenu affectif, émotionnel. Donc, la communication, elle doit toujours avoir lieu et de toujours considérer que la personne en face de nous, même si elle n'a plus de langage verbal, doit toujours rester un interlocuteur, quelqu'un à qui l'on s'adresse, un sujet qui est digne de notre parole, de nos explications, de notre réassurance. Et ça, c'est vraiment un principe essentiel. Toujours s'adresser à la personne, toujours lui parler. Même si on ne sait pas ce qu'elle comprend de nos paroles, elle va comprendre notre intention. Elle va comprendre qu'on s'adresse à elle et qu'on la considère. Alors, ça se passe à travers les mots, mais aussi à travers le non-verbal, à travers la qualité de notre regard, à travers la qualité du ton de notre voix, à travers la qualité de la posture de notre corps, qui se met en position de disponibilité vis-à-vis de la personne et c'est extraordinaire comment une personne, même très évoluée dans la maladie, va être extrêmement réceptive de tous ces messages non-verbaux. Donc là encore, aux professionnels du soin, de l'accompagnement, ne sous-estimez pas tous ces petits gestes, ces petites attentions et ce maintien de la parole offerte à l'autre.
Et c'est d'autant plus important dans cette période si spéciale. Judith, avant de terminer cette émission, peut-être un conseil ou quelques mots pour ces familles qui nous écoutent et qui vont revivre quand même une situation compliquée.
De peut-être, dans ce contexte où on va se retrouver de nouveau beaucoup entre soi finalement, on a vu comment aussi à domicile des couples conjoints-conjointes ou parents-enfants pouvaient se retrouver confinés dans un huis clos qui peut devenir extrêmement éprouvant. Et comment peut-être médiatiser la relation, comment organiser le temps avec des petites activités aussi simples soient-elles, qui d'une part organisent le temps de la personne, de son aidant, mais aussi médiatisent la relation quand la communication devient plus difficile, plus empêchée, et comment ça peut aussi donner du sens à la relation de faire ensemble des petites choses, de faire ensemble des petites choses du quotidien.
Eh bien, merci à vous, Judith Molard-Palacios, de nous avoir accompagnés, puis d'avoir répondu une nouvelle fois à ces questions, à ces inquiétudes aussi. On vous retrouvera, bien entendu, dans une prochaine émission.
Merci et à très bientôt.
Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, de vos nombreuses questions, de vos témoignages. On tâchera d'y répondre lors d'une prochaine émission spéciale. Rendez-vous vendredi prochain. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions, d'ailleurs, sur la page Facebook de l'association, sur la partie commentaires de la radio. Et puis, nous restons, bien entendu, mobilisés pendant cette période plus que jamais. À vos côtés, vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur le www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.